La politique par le père Philippe, Arimont, le 11 juin 1991.
Dis rien. Pouvez-vous savoir, pouvez-vous revenir à nouveau sur le fondement philosophique de la fidélité dans le mariage, en particulier en quoi le don des corps implique tout nécessaire, implique-t-il nécessairement une exclusivité? Quand on parle avec la plupart des gens, cet argument ne semble pas avoir beaucoup de poids, parce qu'ils n'aiment pas vraiment. Vous rencontrerez de plus en plus dans votre vie. Combien peu de personnes aiment vraiment? Pour moi, c'est une des choses les plus affolantes. On sent ça très fort. On sent que... Venez. L'amour d'amitié, le véritable amour d'amitié, est rare. Faut se le dire. Surtout continue. Henri demande d'être continu pour être un véritable amour d'amitié. Dans la vie religieuse, on le trouve, c'est sûr. Dans le mariage, on devrait le trouver. Mais c'est tellement rare. Pourriez-vous expliciter ce que vous entendez en disant que la fécondité spirituelle implique aussi le don des corps. Attendons, alors essayez de comprendre. Le fondement philosophique de la fidélité dans le mariage, c'est l'amour d'amitié qui réclame la fidélité. Ça, c'est sûr. La propriété de l'amour d'amitié, c'est la fidélité. Si on comprend que l'amour d'amitié, c'est un amour qui, de fait, va jusqu'au bout de l'amour spirituel. L'amour spirituel n'est parfait que dans l'amour d'amitié. En prenant l'amour d'amitié dans ce qu'il a de plus vaste, de plus général. C'est évident que l'amour d'amitié est le plus parfait. C'est entre des contemplatifs, des philosophes contemplatifs, point de vue humain, point de vue divin, c'est évidemment, c'est le point de vue contemplatif. C'est là où l'amour d'amitié est le plus parfait. Parce qu'il n'y a que les contemplatifs qui savent ce que c'est qu'aimer. Vraiment, hein, quand je vais jusqu'au bout. Comme l'intelligence est parfaitement elle-même, qu'en métaphysique et en théologie naturelle. C'est rude de dire ça, je sais très bien, c'est pas commode de le dire, mais il faut être vrai. Et l'amour d'amitié, au point de vue humain, c'est vraiment chez ceux qui atteignent une certaine contemplation, qui peuvent s'aimer vraiment. De sorte que la fidélité est premièrement du côté de l'amour spirituel, pas premièrement du côté du don des corps. Le don des corps, c'est une manière d'aimer, mais ce n'est pas l'amour d'amitié. C'est pour ça que l'Église tient toujours beaucoup aux fiançailles avant le mariage. Et vous, tout le temps, se rappelez ça. C'est que l'Église nous rappelle que l'amour d'amitié est en premier lieu un amour spirituel. Même s'il est rare, c'est pas la question. Pas la question de la quantité, c'est la question de la qualité. Cet amour a existé et il existe. Et au fond, c'est ça qui fait la chose. de sorte que la fidélité relève de l'amour spirituel dans ce qu'il a de plus parfait. C'est en quelque sorte, vous voyez, on pourrait dire que c'est une propriété de l'amour spirituel. Et la propriété ne s'épanouit parfaitement que lorsque la réalité qui est source de la propriété est dans un état de perfection. Avant, c'est une disposition. Et quand l'amour n'est pas parfait, on se promet fidélité. C'est disposition. Oh, tu sais bien, je ne t'abandonnerai jamais, je t'aime. Tu le sais bien. On doit le dire. On doit l'affirmer. C'est de l'ordre de la disposition. Quand on s'aime vraiment, le problème ne se pose plus. Non, parce qu'on aime. On ne perd pas le temps à affirmer qu'on est fidèle. On aime. Et quand on aime vraiment, on comprend que l'amour, mais c'est l'essentiel. Et que tout le reste est second. On comprend que c'est excellent de coopérer ensemble et de faire une œuvre commune. Ça manifeste et ça soutient. Ça aide. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le don spirituel. Et cette volonté commune dans l'amour, idem velle, dans l'amour d'amitié, idem velle, c'est-à-dire un amour qui tend à être de plus en plus parfait. Ceci, je crois qu'on doit essayer de le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, j'aimerais que vous puissiez préciser pour ce que vous voyez comme objection. C'est-à-dire, je ne comprends pas, c'est pas suffisant. Il y a une coopération dans la recherche. Je vous ai dit que ce cours impliquait une coopération. Il y tient beaucoup. Parce que c'est très important pour vous. C'est la lecture du réfectoire, que ce soit concret, hein. Ce soit pas abstrait. Et être concret, c'est l'amour. C'est pas la connaissance, c'est idiot. De dire que le langage est concret. Le langage est abstrait. Par nature. Ça a été dit à partir d'Aristote. Les gens croient que vous êtes concret dans leur langage. C'est une des grands péchés modernes. On croit qu'on est concret par le langage. Parce qu'on emploie des mots nouveaux. Et des mots qui font choc. Alors si vous employez des mots choc, vous n'êtes pas dans l'abstrait. Je ne sais pas. Il n'y a que l'amour qui n'est pas dans l'abstrait. Seul l'amour. Et comme l'amour dépasse le langage, parce que le langage est abstrait, l'amour crée le silence, parce que l'amour est au-delà de la parole. Et que seul l'amour, des êtres qui s'aiment, ils s'aiment tels qu'ils sont. Et alors on comprend à ce moment-là ce que c'est que d'être concret. Autrement, vous tuez l'intelligence quand vous ne voulez plus l'abstrait. Et c'est un des défauts modernes, on tue l'intelligence. On tue l'analyse. L'intelligence demande d'analyser. C'est impossible autrement. Il faut quand même essayer de comprendre. L'amour seul peut toucher une personne concrète. Et dans l'amour, on se confie des secrets. Et le secret est quelque chose, parce qu'il est porté par l'amour, est concret. Mais c'est un secret. Alors on ne dit qu'un seul ami. Quand on parle, on parle à plusieurs. Et le langage est universel. Un chat, c'est concret. Non, c'est pas concret, c'est abstrait. Un choc, c'est concret. Non, c'est pas concret, c'est abstrait. Tous nos mots sont abstraits. Nos mots. Il faut quelquefois un peu sourire devant certaines affirmations béates. Et pas se dire, ah, oh, c'est extraordinaire, il découvre quelque chose. Mais non, c'est très vieux ça, vous savez. C'est très vieux. Le prophète disait lui-même, ah, oh, ah. Oh. n'y avait que ça qui était concret. Il n'y avait pas de signification universelle. C'est A-A qui appelait l'amour. Alors, le don des corps dans le mariage va concrétiser l'amour dans ce qu'il a de substantiel, dans ce qu'il a de plus concret, de plus personnel et individuel. Et donc, manifeste d'une manière très particulière la fidélité. Et manifeste cette fidélité dans un sens très concret. C'est que cet amour de l'époux et de l'épouse implique une exclusivité. Alors que tout autre amour spirituel n'est pas exclusif, tout en étant concret. C'est pas parce que j'ai trois amis que du fait qu'ils sont trois, ce n'est plus concret. Mais c'est le raisonnement qu'on fait de temps en temps. Ah, tu as un autre ami. Oui, ça suscite la jalousie. Donc tu ne m'aimes plus de la même façon. Mais pas du tout. Plus on aime quelqu'un, plus on est capable d'aimer. Je me souviens, c'était cette mère de nombreux enfants qui me disait, chaque fois, j'aime encore plus. Et un nouvel enfant me fait aimer plus tous les autres. Et c'est vrai, dans la charité fraternelle, c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a un nouveau novice, c'est une joie. Une naissance. On l'aime de nouveau. Et on l'aime tous les autres plus. Parce qu'on en aime un plus un. C'est très curieux, ça. C'est là où touche l'amour spirituel. Mais il n'est pas exclusif. Alors, distinguons bien fidélité et exclusivité. Hein. Ne bloquons pas les deux. La fidélité est donc spirituelle. Ça, c'est sûr, la fidélité dans le spirituel. L'exclusivité, c'est le fait que certains gestes et le ton du corps ne peuvent pas se répéter. Autrement, ils s'abîment. Il est exclusif. Parce qu'il est en vue, c'est pour ça, il est en vue de la fécondité. Il y a un ordre vers la fécondité. Il implique en premier lieu, vous allez me dire, l'expression de l'amour, c'est très vrai. Mais cette expression de l'amour a ceci de particulier, c'est que il peut être sauvé de la vie. Même si de fait il ne l'est pas. Je ne peux jamais l'exclure. Alors quand on parle avec beaucoup de gens, cet argument ne semble pas avoir beaucoup de poids. C'est évident. Parce que eux cherchent le plaisir. Ils cherchent la variété. Alors, quand on cherche le plaisir, on aime la variété. Juste l'inverse de la fidélité et de l'exclusivité. Il faut quand même être assez lucide là-dessus. Les sensibilités s'usent quand elles ne sont pas renouvelées par un véritable amour spirituel. C'est l'amour spirituel qui ne s'use pas et qui va toujours plus loin. Et quand un amour spirituel grandit tout le temps, la sensibilité est renouvelée de l'intérieur. Mais quand il n'y a pas cet amour spirituel, la sensibilité s'use. Et alors à ce moment-là, on veut la variété. Comme un voyage, on va dans un autre pays. On aime mieux un autre pays. Et si on prend de l'âge, on aime la jeunesse. Ça explique des tas de choses. Et c'est très facile à comprendre. Et on voit très bien que ce n'est plus de l'amour. C'est tout simplement de la jouissance. Ou de la curiosité. C'est lié les deux. Curiosité et jouissance. c'est plus l'amour. L'amour ne cherche pas la curiosité, l'amour est au-delà de la jouissance. Puisqu'on aime l'autre pour l'autre. On ne vieillit pas dans l'amour, dans un amour spirituel, tandis qu'on vieillit dans sa carcasse sensible. Ça, c'est bien évident. Alors, au point de vue de la carcasse sensible et de la sensibilité, vous comprenez bien, il ne peut pas y avoir fidélité. C'est impossible, ça n'existe pas la fidélité au niveau sensible. Il ne peut pas exister. On aime la variété, au contraire. Alors il faut saisir, la variété c'est la multiplicité, l'amour spirituel tend vers l'unité. Alors c'est le gros problème, c'est le problème tout simplement. Est-ce que l'on peut philosophiquement justifier la monogamie? Voilà. La seule justification, c'est ça. L'amour sensible aime la multiplicité et la variété. L'amour spirituel tend vers l'unité. Alors, ceux qui n'ont jamais fait l'expérience d'un amour spirituel, évidemment, ils ont fait l'expérience de la passion sensible. Ils sont pour la multiplicité. Et ils diront, mais l'homme, il est comme ça, il est bâti comme ça. Non, la sensibilité de l'homme est comme ça, mais pas l'homme. L'homme ne se définit pas par sa sensibilité. L'homme se définit par son esprit. Et c'est l'amour spirituel qui tend vers l'unité. Et c'est la seule justification. Et si, de fait, le christianisme rappelle cela avec une netteté comme aucune autre tradition religieuse, c'est parce que dans la tradition religieuse judéo-chrétienne, c'est là où il y a le sens le plus aigu de l'amour. Et c'est à cause de cela. Et que dire dans les pays à tradition polygame, à un homme qui aime ses deux femmes, par exemple, et qui demande le baptême. On connaît ça, c'est sûr. Demandez ça aux gens d'Afrique, aux missionnaires d'Afrique. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience là-dessus. Mais j'ai eu des confidences en Afrique. Et je vous affirme que les femmes souffrent. Pas croire qu'elles s'acclimatent facilement de ça. Elles le subissent. Et alors c'est terrible ça, de faire subir, parce que vous arrêtez une spontanéité dans l'amour. Et à la place de chercher l'amour, alors elle cherche la séduction. Elle se rattrape de ce côté-là. Et donc, on détruit le véritable amour. C'est un fait. Je n'ai entendu que des échos comme ça, moi. J'en ai parlé à des missionnaires. Alors ils m'ont tous dit que c'est très difficile parce qu'il y a des coutumes. Et les coutumes, vous savez bien, c'est plus fort que tout. Vous savez bien cette petite expérience que je vous ai déjà racontée quand j'avais été la première fois en Algérie. Au moment de septembre, de la récolte des olives, et que le soir, c'était durant un spectacle magnifique. Je la vois encore. Vous voyez toutes ces femmes revenir avec des paniers sur la tête d'olives, et quelquefois des troncs d'arbres. Encore cette vieille qui portait ce tronc d'arbre. C'était comme une croix qu'elle portait. Et puis, un kilomètre de là, je l'avais vu avant, la cafétéria, les hommes ont passé toute la journée avec un peu de café, fumant. Alors c'était plus fort que moi. Je suis monté les voir, après spectacle. Il y avait l'homme de prière qui était là, alors j'ai parlé à l'homme de prière, étant un homme de prière, au moins quant à la vie. Alors, je lui ai demandé, expliquez-moi comment ça se fait que les hommes sont là et que toutes les femmes ont travaillé toute la journée. Allons la traduire, parce qu'un homme de prière a fallu lui parler arabe. On lui a traduit. Je crois que la traduction a été authentique, parce que c'est quelqu'un que je connaissais et qui ne voulait pas changer ce que je disais. Il a eu cette parole magnifique. Il a resté en silence. Explication. Vous voyez comment la tradition peut étouffer l'intelligence. Il y a des petites traditions et des grandes traditions. Il y a un mystère de tradition et puis les traditions d'en bas. Ça, c'est les coutumes. Moi, je dis les coutumes. Je ne dis pas la tradition. Les ornières. Les ornières de vieux garçons qui aiment de ne pas travailler et d'avoir des épouses qui travaillent. Alors c'est merveilleux d'en avoir plusieurs. Pour l'homme, dans l'utilité, c'est pas de l'ordre de l'amour. Dans l'utilité, c'est merveilleux. Quand on gratte un peu, on s'aperçoit vite. Voyez. Alors ça, c'est la tyrannie du mal. Vous appelez les choses comme elles sont, qu'elles sont. Se disent, et c'est tuer l'amour. Alors, au point de vue utilitaire, c'est magnifique, mais l'amour, au sens profond, si on essaie de comprendre ce que c'est, puisqu'il est extatique, se porte sur une personne et il nous permet d'être accueil vis-à-vis de l'amour de l'autre. Et si l'amour a quelque chose de substantiel, puisqu'il porte sur la personne, mais il est un. Si l'amour portait sur les qualités, il serait multiple. Si l'amour porte sur l'utilité, il est multiple. Si l'amour porte sur la jouissance, il est multiple. Il est varié. Quand Aristote, vous savez, dit calmement, il y a trois espèces d'amour d'amitié. Un amour d'amitié parfait. On aime l'autre. Pour l'autre, pour ce qu'il est, pour lui-même. Il y a l'amour d'amitié, de jouissance, et l'amour d'amitié, d'utilité. Ça représente quelque chose de très important, ça. Trois niveaux. Et le plus répandu, c'est l'utilité. Le vieil Hésiode disait ça. Quand tu te maries, fais grande attention. Et deux bœufs et une femme qui soit le troisième. N'est-ce pas? Et surtout, surtout, ne n'épouse pas une épouse frivole. Parce que ce serait le frelon dans la ruche. C'est Hésiode qui dit ça. Heureusement que le christianisme a rendu les choses plus vraies pour rendre l'amour plus authentique. L'amour utilitaire. L'amour de jouissance, on sait ce que c'est. Il n'y a plus aucune fidélité, hein. Au point de vue utilitaire et au point de vue jouissance, plus aucune. Au contraire, on désire l'inverse. Il n'y a que l'amour dans le sens le plus fort qui peut comprendre la fidélité et cette exclusivité parce qu'on aime l'autre pour l'autre. Oui.
On peut aimer plusieurs amis.
Mais pas plusieurs épouses. Vous voyez. Le caractère substantiel, c'est la personne qu'on aime.
Mais quand on aime un ami, on aime aussi une personne.
Écoutez, vous pouvez aimer plusieurs amis. Vous les aimez tous de la même façon? Non, jamais. Il y a un ordre. Il y a un ordre. La preuve, c'est quand un meurt, vous dites « Ah, c'est mon meilleur ami qui est mort. » Vous le dites à sa mort. Parce que souvent, c'est lorsqu'il y a une séparation qu'on comprend que... On ne peut pas exprimer « Ah, c'est mon meilleur ami. » Quand on le dit trop de son vivant, ça ne va pas. Parce qu'il le dit à chacun. Moi, je le disais encore ça l'autre jour. Il le dit à chacun. Tu es mon meilleur ami. Bon. Celui qui dit ça, il y a des chances qu'il le dise à chacun. Celui qui le dit pas, attendons la mort. Alors à ce moment-là, il est vrai. C'est curieux, vous savez, ces choses-là. Hein. Vous savez, l'amour est secret. Et très secret, l'amour. Toujours. Et plus il est profond, plus il est secret. Et plus il tend vers l'unité. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on peut avoir plusieurs amis. Surtout dans la charité. Dans la charité, j'aime tout le monde. Et j'essaie d'aimer tous mes frères. Et j'essaie d'avoir un cœur qui aime tous. Et j'en exclus aucun. Parce que j'aime avec le cœur du Christ. Et alors il y en a un que j'aime plus que les autres. Il est bien évident que la charité chrétienne a intensifié ce caractère, vous voyez, de multiplier tous mes amis. Ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'en de fait, cet amour chrétien se laïcise. On voit ce qu'on voit aujourd'hui. Mais dans l'amour chrétien, on sait qu'on aime toujours avec le Christ. Et donc il y a toujours un amour unique. Et je crois que quand l'amour est vraiment ce qu'il doit être, il y a toujours un amour unique. S'il est spirituel, dis bien, s'il est spirituel, parce que s'il est imaginatif, s'il est passionnel, sensible, là, la multiplicité. On a cinq sens. On a cinq sens. La diversité, elle est dans la connaissance sensible. Et la connaissance imaginative est infinie. Tandis que la connaissance intellectuelle, non. Elle tend vers quelque chose qui est unique. Et alors, il est sûr que le don des corps met quelque chose de très net dans la manifestation de cet amour et le caractère unique, c'est pour ça que je dis l'exclusivité, parce que si on aime l'autre, vraiment, et qu'on le respecte, on ne peut pas, vis-à-vis de quelqu'un qui se donne totalement, dire, oh tu sais, j'aime un autre autant que toi, ou j'aime une autre autant que toi. On ne peut pas le dire. Parce qu'au fond, on n'a pas vraiment une conscience tout à fait tranquille. Et il n'y a plus, alors, cet amour si fort qui tend vers l'unité. Je crois que c'est tout le problème, et métaphysique. Hein. Parce que quand l'amour d'amitié va jusqu'au bout, on touche les exigences métaphysiques. L'être en acte est un. Le bien en acte est un. Tandis qu'au contraire, dès que vous êtes dans la potentialité, vous êtes dans le multiple. Alors, c'est sûr, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, que la plupart des êtres humains aiment à un niveau de jouissance. Surtout aujourd'hui. Ça a toujours été un peu comme ça, parce que dans la Rome antique, c'était pas beaucoup fameux. Oui.
N'y a-t-il pas une différence entre l'amour de l'amitié et l'amour conjugal?
La différence, oui, analogiquement, il y a une diversité, mais analogiquement, il y a l'unité.
Dans l'amour des conjoints, on donne sa personne. Et ça ne peut être une seule fois. On donne vraiment toute sa personne.
On donne son individualité et sa personne. premier mariage où il y a un très très grand amour, il existe des amitiés réelles, profondes, spirituelles, qui ne sont pas l'amour de l'époux et de l'épouse. Oui, parce que, au point de vue surnaturel, c'est ça existe. Mais c'est même très très fort cette chose-là. Et c'est très beau, moi je trouve. Et vous voyez, ce que vous touchez, c'est un problème qui est très très important. Il peut se faire, c'est aussi bien vrai pour des religieuses que pour des prêtres, que de fait, il y a des amitiés spirituelles très fortes. Le prêtre doit être attentif et doit toujours demander est-ce que le lien d'amitié qui est entre nous, qui est divin, qui est surnaturel, mais qui implique aussi quelque chose, oui, il a commencé par un point de vue surnaturel. Et puis, il assume un point de vue sensible. Et le prêtre doit toujours être suffisamment conscient, et la religieuse aussi, pour demander si cet amour d'amitié qui se réalise à l'intérieur de la charité divine fait que les époux s'aiment plus grâce à ça. Il faut cette très grande lucidité. Et la plupart du temps, moi je l'ai vu plus une fois, ils disent grâce à ce lien divin, surnaturel, qui est un lien d'amitié divin, charité fraternelle, charité divine et amitié humaine aussi. J'aime encore plus mon époux. J'aime encore plus mon épouse. Oui, ça c'est le critère pour moi. Et c'est vrai, en dehors du point de vue du prêtre, c'est par rapport aux amitiés. Vous voyez, c'est le cœur humain a quelque chose d'infini dans son amour. Vous voyez, alors, c'est très vrai qu'il faut toujours être très attentif. On doit, si on est chrétien, on respecte très très fort l'amour de l'époux et de l'épouse. Et on doit tout faire pour que cet amour soit toujours plus fort, surtout aujourd'hui. On doit être attentif à ça. Mais je n'oserais pas dire, vous voyez, que c'est le signe d'un amour parfait qui exclut tout le reste. Non. J'oserais pas dire ça. Parce que, de fait, l'amour d'amitié implique un don personnel et un don de l'individu de la personne. Dans le mariage, dans des corps, c'est le don individuel. Dans une amitié de contemplatif, dans une amitié philosophique, parce que c'est vrai, il y a des amitiés philosophiques, qui sont des amitiés parce qu'on cherche la vérité. Et dès qu'on rencontre quelqu'un qui cherche la vérité, on a, c'est mon ami, tout de suite, si on cherche la vérité. Et dans ces amitiés-là, c'est une amitié beaucoup plus personnelle qui implique le point de vue qu'on se donne personnellement, vous voyez, dans sa recherche de vérité. Et on s'aide, on s'entraide. Alors évidemment, il n'y a pas la même modalité parce que vivre en commun pour l'époux et l'épouse est une nécessité. Tandis que dans une amitié de personne au plan spirituel, il n'y a pas de vie commune. Mais il y a quelque chose de plus. Parce qu'il y a une très très grande unité dans la recherche de la vérité. Vous voyez ? Parce que c'est souvent dans la recherche de la vérité. Alors la question de demander le baptême, ça faut demander aux vieux missionnaires ce qu'ils font. Parce que c'est pas commode, hein. D'arriver petit à petit à faire cette purification. Faut pas la faire trop vite. C'est comme deux jours, collez-vous. On voit bien Abraham, hein, avec Sarah. C'est pas si commode. Et pourtant, il a reçu la foi. Pas si commode. Première petite histoire d'Abraham avec Sarah. Et pourtant Abraham est déjà âgé. Qu'est-ce que ça devait être quand il était jeune? Et avec Sarah jeune? Ça met du temps à faire que la pâte humaine soit totalement chrétienne. C'est là la taille du Père. Oui, au plan philosophique, je crois qu'il faut être très net que la ratio amicitié, la raison d'amitié, est la même dans les diverses modalités de l'amour d'amitié. Mais elle se réalise selon des modalités très diverses. Et pour nous, concrètement, c'est là où on voit la plus grande diversité d'amitié. Et l'amitié entre époux et épouse, qui fonde le foyer, est un type d'amitié que nous devons regarder d'une façon très particulière. Mais il y a d'autres types d'amitié. Ça, c'est sûr. Heureusement, du reste. Pouvez-vous expliciter ce que vous entendez en disant « La fécondité spirituelle implique aussi le don des corps ». Attention, j'ai dit ça, je me souviens plus très bien d'avoir dit exactement ça. J'ai dit plutôt que la fécondité selon la chair et le sang. Bon, implique le don des corps. Mais la fécondité spirituelle implique l'unité des esprits et des cœurs, au plan spirituel. Si j'ai dit que ça impliquait le don des corps, attention. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai dit que ça impliquait l'unité spirituelle. La fécondité spirituelle n'est pas selon la chair et le sang. La fécondité spirituelle chez les artistes. La fécondité spirituelle chez les poètes. La fécondité spirituelle chez des philosophes. Ça existe. Bien évident que quand on peut parler, quand on cherche la vérité, et quand on peut parler avec quelqu'un qui cherche la vérité aussi, simplement de mettre en commun, dans une grande amitié, une grande confiance, toutes ces recherches, ça permet un nouvel élan. Et ça permet de découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvert. Ça n'implique pas du tout le don des corps. C'est autre chose. Donc oui, c'est bien d'avoir dit ça. Parce que je ne l'ai pas dit, du moins. Je n'ai pas voulu le dire. Je n'ose jamais dire, je n'ai pas le dire. Il faudrait écouter la bande. Parce que c'est toujours un mot d'ouvre, je suis bien 10. Et on fait dire des tas de choses qui ne sont pas tout à fait justes. Alors c'est bien, c'est pour ça que je vous demande toujours de dire vos questions. Et je comprends que ça choque. Parce que ça me choquerait le premier. Et ça ne t'implique pas le don des corps. Que ça implique une certaine sympathie, une certaine harmonie sensible, c'est bien évident. Une certaine présence sensible, c'est bien évident, mais c'est pas le don des corps. Si on prend le don des corps au sens très fort. Donc, dernière question. Quand vous dites, on ne se marie pas pour trouver le bonheur. Alors, faisons attention. J'ai voulu montrer, je l'ai peut-être mal montré là encore, le bonheur, le premier bonheur, est dans l'amour d'amitié. Et je crois avoir dit avec suffisamment de netteté qu'on se marie en fonction d'un amour d'amitié. Et que de plus en plus, l'Église insistait là-dessus. Un choix libre d'amour d'amitié. convertir son épouse. Ou l'épouse ne se marie pas pour convertir son mari. Ce garçon, il est si charmant, il est merveilleux, il a tous les dons. Il ne croit pas. Donc, je vais me marier avec lui pour qu'il puisse avoir la foi. Bien, quand on dit ça, on dit c'est une erreur. Il faut pouvoir le dire ouvertement. Si on vous demande conseil. On se marie par amour d'amitié. Et donc, à ce moment-là, on peut dire que on se marie pour trouver un certain bonheur. L'amour d'amitié étant le premier bonheur. C'est pas le seul. C'est pas le dernier. C'est pour ça que le mariage implique toujours une ouverture vers le haut, même au point de vue purement humain, la contemplation. L'amour d'amitié ne doit jamais étouffer la contemplation. Et au point de vue chrétien, c'est encore beaucoup plus vrai. Parce qu'avant de se marier, on est baptisé. Et si on est baptisé, c'est pour montrer qu'on est lié au Christ, dans la foi, l'espérance et l'amour, en premier lieu. C'est pour ça que, je me souviens, c'était une des grosses discussions que j'avais avec l'abbé Cavarel là-dessus. Puisque, au début de l'anneau d'or, avant que je parte à Fribourg, l'abbé Cavarel m'avait demandé, est-ce que vous pourriez pas être un peu mon théologien pour l'anneau d'or, pour ce qu'il fondait. Et on discutait toujours sur cette question. Parce que l'abbé Cavarel voulait à tout prix qu'il y ait une harmonie au plan surnaturel, au plan de la prière, au plan de la soif de contemplation entre l'époux et l'épouse. En disant que c'est la grâce du mariage qui implique ça. Il disait non. Avant la grâce du mariage, il y a le baptême qui nous unit tous au Christ directement. Et on a tous un lien avec le Christ qui implique l'adoration et la contemplation. Le mariage sanctifie l'amour d'amitié. Le mariage va impliquer, la grâce du mariage va impliquer une grâce pour la fécondité et pour l'éducation. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que la grâce du mariage exige que l'époux et l'épouse aient le même rythme de vie spirituelle et surnaturelle. Ils doivent s'entendre. Combien de fois on a vu et on voit des époux et des épouses qui n'ont pas du tout le même rythme de vie surnaturelle. Petit à petit, il y a une communication qui se fait, merveilleuse. Une épouse qui a un point de vue beaucoup plus profond, un point de vue surnaturel, petit à petit, progressivement, amène son époux à cela. Mais pas toujours. Et ça ne veut pas dire du tout que la grâce du mariage n'existe pas. Pas toujours. Il faut un très grand respect dans le rythme de la vie surnaturelle, qui n'est pas toujours le même pour l'époux et pour l'épouse. Que la grâce du sacrement de mariage aide à faire qu'il y ait une communication plus grande. Mais il ne faut pas dire qu'il faut nécessairement arriver à une harmonie parfaite. Parce que la charité fraternelle n'est pas l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Pas l'oublier. L'amour de l'époux et de l'épouse a un fondement naturel, en premier lieu. Il demande d'être surnaturalisé par la charité divine et par le sacrement de mariage. Et étant surnaturalisé, il se tourne vers Jésus, il se tourne vers le Père. Mais il est surnaturalisé. naturalisé. Il n'est pas naturellement ordonné vers l'adoration et vers la contemplation. L'amitié humaine n'est pas naturellement ordonnée vers l'adoration et la contemplation. Donc il faut faire grande attention là-dessus. Alors, comprenons. Voulez-vous dire que c'est le choix libre qui peut être source de bonheur personnel? Oui. Et non la vie commune comme telle? Oui, c'est ça que je veux dire. La vie commune est ou un effet de l'amour d'amitié. Mais ce n'est pas l'amour d'amitié, c'est le fruit. Ne faisons pas du fruit la source. Ce serait du positivisme. Et la vie commune ne nous donne pas le bonheur. Ne cherchons pas dans la vie commune le bonheur. On doit se supporter, s'aider, faire que cette vie commune soit quelque chose qui nous aide à aimer plus. Oui, nous dispose à aimer plus. Alors ça c'est magnifique. Mais ce n'est quand même pas l'amour d'amitié. C'est l'amour d'amitié qui est seul source de bonheur. C'est ça que je veux dire. S'il y a des questions encore là-dessus,